Bonjour à tous, je suis Stéphane Faure, bienvenue pour ces podcasts Eutimia, où l'on parle des fondements de la pleine conscience. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir pour échanger Yasmine Yenard, qui est psychiatre à l'hôpital de Sarlat. Depuis maintenant presque un peu plus d'un an même, elle est responsable de l'unité ambulatoire et elle prend en charge des patients présentant de nombreuses pathologies. Auparavant, Yasmine était à Paris, où elle fut tour à tour chef de clinique à l'hôpital Sainte-Anne, puis a exercé en libéral. Elle a conduit de très nombreux groupes de méditation de pleine conscience, et elle a également rédigé des ouvrages pour mieux faire connaître les enjeux de cette pratique de pleine conscience et de méditation plus large dans le soin. Elle a à cœur de transmettre la richesse de ces outils de psychothérapie disponibles aujourd'hui, mais a aussi envie et espoir de donner justement du courage et des moyens de faire face à tous ceux qui sont enlisés dans le mal-être. Je vous invite sans attendre à partager ce moment d'échange avec Yasmine Yenard. Bienvenue pour ce podcast. Donc, je suis enchanté de pouvoir t'accueillir. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment de pouvoir un peu partager avec toi sur ton expérience de la méditation et ton expérience en milieu psychiatrique. Donc, pour ce premier podcast, ce que j'aimerais avec toi, si tu le veux bien, ce serait que tu puisses un peu nous parler de ton itinéraire qui t'a conduit à la psychiatrie, puis progressivement à la pleine conscience à travers le programme MBCT, et ensuite avoir un parcours qui aille un peu plus au-delà. Puisque ça fait maintenant depuis presque une dizaine d'années qu'on se connaît, que je te vois évoluer à travers différents types d'expériences et d'accompagnement et d'évolution personnelle, que tu puisses aujourd'hui avoir l'occasion de t'exprimer sur ça. Je suis certain que ça pourra être enrichissant pour ceux qui nous écoutent. Donc peut-être tu peux nous dire un peu qui tu es et ce qui t'a amené à la psychiatrie au départ.
Oui, merci Stéphane. Qui je suis, ce qui m'a amené à la psychiatrie, c'est forcément mon histoire personnelle. Je pense que déjà on ne devient pas médecin par hasard, et puis on ne devient pas psychiatre non plus par hasard, dans le sens où j'ai une famille où il y avait beaucoup de médecins, mais aussi je pense que j'ai eu très tôt... le sentiment qu'il y avait des personnes qui souffraient plus que d'autres et que j'avais envie d'aider parce que je les aimais. Donc j'ai très tôt développé une envie d'aider, de soutenir et d'alléger la souffrance des gens autour de moi. Je pense que la psychiatrie est venue naturellement puisque je m'intéressais à la neurologie et à la neurobiologie des émotions depuis mon adolescence. Et la psychiatrie, c'était pour moi la spécialité de médecine où je pouvais continuer à faire des recherches ou à explorer le champ des émotions, du cerveau, du langage. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité. J'ai toujours été fascinée par le fait de comprendre les comportements humains et peut-être décrypter le mystère des personnalités, des émotions, des tristesses, quelque chose qui enfant me semblait mystérieux et décontenançant. J'ai cherché la clé et je continue inlassablement à essayer de trouver comment, les compréhensions théoriques, mais aussi par... finalement un savoir-faire, comment des gens tristes ou des gens qui sont bizarres, comment les ramener peut-être dans la réalité ou les reconnecter avec la joie ou avec les autres surtout, parce que ce que je remarquais très tôt, c'est l'isolement que la souffrance procure. Et je crois que le lien social, c'est mon fil conducteur en fait dans tout mon travail. Voilà.
Merci. En parlant de lien social, très tôt, tu as eu envie d'intégrer la pleine conscience dans le soin psychiatrique. Tu as fait partie des premières personnes à faire ça. Mm-hmm. Est-ce que tu voudrais bien un peu me raconter, est-ce que c'est la psychiatrie qui t'a amené à la méditation ou c'est toi qui as amené la méditation dans la psychiatrie? Comment s'est fait cette rencontre?
En fait, c'est les écueils de la psychiatrie qui m'ont amené à la méditation, parce qu'il y a des choses qui me semblaient des impasses, qui me faisaient souffrir dans mon métier, J'avais l'impression qu'on n'avait pas les clés pour vraiment guérir. Et puis, voilà, moi-même, je souffrais de ça, mais peut-être aussi, je commençais à avoir aussi des vulnérabilités, des émotions en moi. Et tout est venu un peu en même temps. C'est-à-dire, j'ai découvert la méditation personnellement. Et en même temps que je découvrais personnellement, plus j'avançais, plus je me disais, mais c'est la réponse à ce qui manque dans la psychiatrie. Et en fait, au même moment, a eu lieu la première formation de MBCT pour les rechutes dépressives en Belgique en 2006. Et c'était le tout début de l'aventure de la pleine conscience dans les soins médicaux. Donc, il y a une sorte voilà, de connexion de tous ces éléments en même temps qui ont fait que bah, c'était une évidence. Qu'il y avait une voie nouvelle qui allait amener ce qui manquait. Donc, je dirais, j'ai à la fois la psychiatrie m'a amené à la méditation, mais la méditation, bah, je l'ai introduite dans la psychiatrie, puisque j'ai fait partie des gens qui ont communiqué sur bah, l'importance de ces nouveaux outils. Et puis voilà, et puis ça continue à voilà, interférer, interéchanger.
Au départ, c'était ta rencontre avec la méditation, c'était via la pleine conscience ou d'autres approches?
Non, c'était, ça n'existait pas encore en France. Hein. Donc, enfin, si, en même temps, si, puisque c'est les premiers ouvrages que j'ai lus, c'est ceux de Thich Nhat Hanh. Donc, Thich Nhat Hanh, ce moine zen vietnamien qui est décédé maintenant, mais qui a été vraiment celui qui a popularisé, ou en tout cas vulgarisé, le concept de pleine conscience bouddhiste pour les Occidentaux. Donc, on va dire que c'était lui qui était quand même à l'origine. Donc, mais à l'époque, c'était dans un contexte bouddhiste. Et donc, j'ai découvert après le zen. Donc, j'ai pratiqué le zen. Donc, je ne connaissais pas la pleine conscience voilà, telle qu'on l'a fait dans les protocoles thérapeutiques, mais j'ai commencé ma pratique dans le bouddhisme zen en fait, et c'est comme ça que j'ai expérimenté, et voilà, c'est comme ça que j'ai
Et
découvert.
dès cette première expérience à travers le bouddhisme zen, tu as tout de suite vu quel potentiel il pouvait y avoir dans l'accompagnement des patients.
Oui, surtout en lisant Thich Nhat Hanh, je me suis dit, mais en fait, mes patients, ils sont pas dans le moment présent, mais en fait, ils sont pas dans leur corps, mais en fait, ils n'entendent pas le chant des oiseaux, ils sont surtout, bon, je travaillais à Sainte-Anne dans l'unité des troubles alimentaires, excuse-moi, où j'avais des patientes anorexie grave à prendre en charge. Et s'il y a bien une difficulté à être dans le corps, à être dans le moment présent, à être dans les sensations, c'est bien dans ce type de pathologie, mais en fait, quasiment toutes. Maintenant, on sait que c'est un des points communs. Mais je me suis dit, mais en fait, ce que je fais là quand je vais méditer, voilà, mais ça leur ferait évidemment énormément de bien. Donc, ça m'a paru une évidence. Et je te dis, après, le protocole MBCT, c'était la réponse, c'était le pont, en fait.
Donc ça, on est en 2006. Donc ça se passe comment? Alors dès 2006, à Sainte-Anne, on sait qu'il y a aussi plusieurs personnes qui s'intéressent à la pleine conscience, dont Christophe André. C'est passé facilement? Vous avez déjà
Non,
très
pas au début.
facilement pu.
Non, 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 pas du tout, justement. D'ailleurs, je voulais me faire financer la formation de MBCT par l'hôpital et mon chef de service, mais ça leur paraissait pas opportun. Et je pense qu'ils ne savaient pas forcément de quoi il s'agissait. Et je savais que je ne pourrais pas commencer des groupes en 2006 dans le service où je travaillais à l'époque. Hein. C'était inconnu au bataillon. Donc, c'est pour ça que je me suis installée en libéral. J'ai pris un cabinet avec une salle d'attente suffisamment grande et j'ai dit, je vais faire mes premiers groupes, quoi, parce que je savais qu'il aurait fallu se battre. Du temps, et je crois c'est arrivé, mais ça a mis quelques années. Je crois qu'à Sainte-Anne, on a commencé à faire des groupes pour les patients bipolaires et patients dépressifs. Je pense que c'est pas avant 2008, 2009, 2010, il me semble. Donc, moi, je n'avais pas la patience d'attendre 4 ans. Je voulais tout de suite mettre les mains dans le cambouis. Je voulais tout de suite faire l'expérience. Je voulais tout de suite pratiquer le protocole MBCT parce que bah, c'était pour moi, c'était enfin une façon de travailler qui était cohérente. Et d'ailleurs, là, le livre que j'écris aujourd'hui, c'est pour faire une synthèse sur les enjeux que ça représente dans la psychiatrie. C'était pas rien du tout. Enfin bon, voilà, c'est pas rien. Et ça revoit tous les fondements même des catégories diagnostiques, de la pathologie, Voilà, donc pour moi, j'ai pu commencer à aimer, à faire mon métier vraiment avec joie et enthousiasme grâce aux outils des TCC, donc thérapie cognitive et comportementale de la troisième vague, dont la pleine conscience et les groupes MBCT font partie en fait.
D'accord. Donc tu te retrouvais pas trop dans la vision de la psychiatrie. Il y a beaucoup de gens qui sont des psychologues ou des psychiatres qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais peut-être aller un peu plus dans les détails sur la réponse qu'apportait la pleine conscience dans ce domaine-là et qui n'était pas présent auparavant, voire même qui allait, à ton avis, à l'encontre de ce que tu souhaitais faire avec les patients.
Il ne s'agit pas de critiquer les fondements de la psychiatrie. Et d'ailleurs, encore une fois, comme je travaille sur mon prochain ouvrage, j'essaie vraiment de détailler les choses du point de vue théorique et du point de vue scientifique. Et encore, je pense que je pourrais y passer des années pour faire vraiment quelque chose qui soit satisfaisant. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a toujours eu des dialogues entre la psychiatrie biologique, la psychiatrie des catégories, des diagnostics, et puis d'autres mouvements qui finalement auraient tendance à moins stigmatiser les patients, voir les choses, le patient dans son contexte, et dire que voilà, c'est pas juste une personne elle est bipolaire, elle a une phobie sociale et donc elle a tel médicament, et on lui met des cases de diagnostic du DSM. Les catégories donc comment dire le DSM c'est un peu la Bible qui élabore les catégories diagnostiques en psychiatrie. On est à la version 5, on est passé je crois de 40 lors de la première version à 260 troubles psychiatriques à la cinquième. Donc on
Avec à
a
chaque fois des médicaments qui sont
voilà,
proposés.
c'est-à-dire que le
D'accord.
but aux États-Unis, c'est quand même pour les mutuelles, pour pouvoir rembourser et prescrire, et puis les études et scientifiques. Mais cette surcatégorisation, elle pose des problèmes, voilà, sur bah, finalement, il y a des gens, ils ont un petit peu de chaque diagnostic, pas tout à fait un. Alors, on ne sait pas dans quelle case les mettre, et est-ce qu'il faut les mettre dans des cases? Et alors, les TCC de la troisième vague, en fait, c'est une vraie révolution, ça balaye en fait beaucoup cette histoire de catégorie, puisqu'on va parler plutôt de dimension et d'approche transdiagnostique, c'est-à-dire finalement on s'est rendu compte qu'il y a des choses communes à la plupart des troubles psychiques, et la pleine conscience, elle vient travailler aux racines de la souffrance de façon plus universelle, c'est-à-dire voire même en dehors du cadre pathologique. C'est-à-dire que dans un MBCT, on travaille sur des choses qui peuvent être à la fois chez le thérapeute comme chez le patient. Donc ça, c'est carrément
D'accord.
une révolution. On n'est plus en train de dire il y a le malade et il y a le normal, mais en fait, on est tous plus ou moins vulnérables à plein de choses. On peut avoir des émotions, on peut ruminer, on peut avoir des pensées, on peut avoir du mal à être dans le moment présent, on peut être impulsif. Mais la pathologie serait vraiment quand il y a plusieurs de ces dimensions à un stade extrême, que là, on va être dans quelque chose qui est un processus de souffrance et de maladie. Donc c'est et moi, ça me évidemment que ça me j'arrivais pas avec les catégories parce que je voyais toujours ce qu'il y avait de sain. Chez des gens, bon, on disait oui, il est schizophrène, mais moi je voyais aussi, bah, il est génial, il a des idées, il crée, il y a des moments où il est tout à fait lucide. Ça résumait pas la personne en fait. Et je trouve que la pleine conscience, la méditation, les TCC troisième vague, on redonne la possibilité à chacun de croire en ses ressources d'auto-guérison. Et c'est beaucoup plus optimiste, en fait. Je trouve que c'est moins déprimant et moins stigmatisant sur les humains.
Oui, et ça donne une part de créativité à la fois pour le dit patient et pour le thérapeute aussi, hein, plutôt que ça échappe un peu permet d'échapper aux classifications et de voir la personne dans sa globalité, j'imagine. En tout cas, moi, si j'étais patient, j'apprécierais en effet d'avoir un regard comme celui-ci porté sur moi.
Mais ce qui ne veut pas dire que je critique complètement les catégories en même temps, hein, parce que c'est pour ça que j'ai une vision, moi j'ai une parole plus nuancée. Évidemment qu'une personne qui est bipolaire, il vaut mieux qu'on la diagnostique bipolaire, parce que quand même, les traitements régulateurs de l'humeur, c'est quand même extrêmement aidant et ça évite à des gens de se trouver complètement désocialisés, etc. Moi, je te dis, la pleine conscience à l'époque, ça a été un souffle d'air, mais je suis revenue après sur une espèce de tout ou rien. Et justement, par ma pratique hospitalière, je vois bien, il y a des personnes d'abord qui ne peuvent pas accéder à pleine conscience, ils sont déjà tellement vulnérables qu'ils ne pourront jamais faire des exercices de TCC, de méditation. Ils sont tellement envahis par leurs angoisses, par leur délire ou leurs hallucinations que ce n'est pas envisageable d'utiliser ces outils. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Et il y a quand même des pathologies qui sont quand même biologiques, hein, on le sait. Hein. Donc, il y a quand même de la maladie biologique. Mais voilà, il faut
Le traitement médicamenteux est pas,
ah bah
il
oui.
n'y a pas une confrontation à faire entre
non.
Une approche plus vaste, plus contemplative peut-être
Ouais.
de la maladie, et les
voilà.
deux sont complémentaires. Il faut
Au début,
utiliser tous les.
voilà, j'étais peut-être un peu excessive à me dire ça y est, on a. Tu vois, j'étais un peu à me dire qu'on peut quasiment pas on peut soigner autrement, etc. Mais avec l'expérience clinique, c'est non, non, non. Par contre, c'est vraiment deux jambes, quoi. La psychothérapie et dont la pleine conscience, etc., est fondamentale en plus des traitements médicamenteux. C'est pas tout ou rien, c'est ensemble. Et proposer à des personnes que des médicaments sans leur proposer autre chose, c'est dommage. Et proposer que des approches non médicamenteuses sans les médicaments, c'est pareil, c'est dommage parce qu'il y a des moments de crise où il faut des traitements. Et puis il y en a qui ont besoin de traitements à vie, mais tout ce qu'ils vont faire à côté va peut-être alléger le recours aux médicaments et peut-être pour certains même permettre des fois une guérison. Par exemple, pour la rechute dépressive, je pense quand même qu'il y en a qui, par une pratique assidue et quotidienne de méditation, peuvent se passer des antidépresseurs à vie et prévenir les rechutes. Ça peut arriver, hein, ça a été montré dans les études dans le Lancet, c'est quasiment équivalent. Il y a des gens, par exemple, qui toléreront plus les antidépresseurs, qui en ont eu beaucoup, qui sont résistants. Il faut leur offrir d'autres possibilités. Donc, voilà, donc pour moi, c'est complémentaire, mais c'était vraiment voilà, nécessaire qu'il y ait autre chose. Voilà.
Merci beaucoup. J'aimerais justement par rapport à ça aller sur un sujet un peu voisin. Tu sais que les programmes de pleine conscience sont largement étudiés depuis plusieurs années, que à certains moments la qualité de ces études a fait question. Il y a une différentes qualités autour des protocoles de recherche autour des impacts de la pleine conscience. Néanmoins, on peut quand même dire qu'il y a un faisceau d'indices qui montre que la pleine conscience a un effet à différents niveaux. Et depuis quelque temps, il y a une sorte d'engouement journalistique autour des effets indésirables de la méditation. Et j'étais assez étonné parce qu'autour des effets indésirables de la méditation, on trouve parfois de ce que nous, dans les traditions contemplatives, on pourrait appeler des expériences de méditation, et qui sont rangées au même titre que, en effet, certains effets que on pourrait penser ne pas avoir quand on médite, puisqu'il y a quand même la promotion de la pleine conscience comme étant quelque chose d'agréable, un état de mieux-être, etc. Et j'aimerais que tu donnes un peu ton point de vue par rapport à ce qu'on appelle les effets indésirables de la méditation, puisque il est certain que des personnes en grande vulnérabilité, notamment psychologique, telles que tu les côtoies, doivent certainement passer par des moments difficiles à travers la méditation. Comment toi tu vois les choses par rapport à ça, ou est-ce qu'il faut qu'on communique plus sur les effets indésirables de la méditation, au risque des fois d'associer des expériences de méditation à des effets indésirables? Comment tu vois les choses de manière empirique?
Encore une fois, on peut être tenté de remettre des catégories. Alors, ça, c'est un effet indésirable, ça, c'est pas un effet indésirable. Mais encore une fois, on va retourner dans les pièges des choses qui vont finalement créer des clivages, puis on n'aura jamais de réponse certaine et on va être dans des positions duelles. C'est pas ça, enfin, qui me semble important. C'est déjà de comprendre comment on fait faire de la méditation, à quoi ça sert. Et à quel moment du parcours? Parce que très souvent, on va dire oh, la méditation, voilà, on l'a fait de façon universelle, puis ça va guérir ceci, cela. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est un travail d'artisanat. Et en fait, chaque personne est singulière. Et il y a des temps pour tout. Et normalement, chaque personne devrait être accompagnée de manière individuelle avec quelqu'un qui a accès à énormément de ressources et d'outils et qui connaît entre autres la méditation de pleine conscience et qui peut, voilà, à un moment donné, dans le parcours d'une personne fragile, ce sera le bon moment pour introduire la pleine conscience, etc. Et là, il peut y avoir différents types de choses qui vont se passer. Et c'est vrai que c'est important de les connaître. Je parlerai après donc, des effets indésirables. Mais déjà, avant de vouloir tout de suite encore des grandes théories globales et universelles, ça ne marche pas. Oui, bien sûr, on peut voir le négatif, on peut voir le positif. Dire que ça marche et que ça fait du bien à tout le monde, c'est complètement stupide. Et dire que c'est dangereux, c'est stupide aussi. Ce n'est pas ça. C'est comme d'autres outils. La psychanalyse, ah, c'est horrible, voilà. Bon, il y a des gens, ça les a sauvés, ça les a aidés. C'est comme les médicaments, ah, c'est les laboratoires pharmaceutiques, ils veulent nous tuer. Oui, c'est vrai, il faut le savoir, les benzodiazépines, c'est une honte parce que ce sont des drogues et qui servent à rien réellement, ça n'a jamais guéri personne et les Français sont les premiers consommateurs. Bon, alors c'est aussi dangereux, voire beaucoup plus dangereux que la méditation et pourtant c'est prescrit légalement. Donc oui, les benzodiazépines, c'est grave, mais en même temps, c'est bien, on ne va pas y arriver comme ça. Et à un moment donné dans le parcours de quelqu'un, prendre une benzodiazépine comme l'exomie, Tranxène, Xanax, tout ça, peut l'aider ponctuellement à surmonter une difficulté. Donc c'est pas mauvais, ça dépend. Par contre, si on donne 10 cachets pendant 3 ans et qu'il peut plus travailler, qu'il peut plus rien faire, oui, c'est pas bien. Donc encore une fois, c'est comment on prescrit, comment on fait. Et ça, on n'en parle jamais de cet art, ce savoir-faire. Et donc, oui, bien sûr, que évidemment que la méditation, ça déconstruit les défenses, les repères. Donc, ça peut laisser quelqu'un complètement vulnérable, complètement à plat. J'ai vu des enseignants de méditation avec des gens qui sont complètement en panique, détresse, parce qu'évidemment, ça ouvre tout. Donc, ça retraumatise les gens. Des fois, ils se sentent aussi vulnérables que quand ils vivaient leur traumatisme, par exemple, dans l'enfance. Et puis là, l'enseignant de méditation, il n'en a rien à faire. Il ne sait pas faire. Alors, il laisse la personne, bon, allez, ça y est, elle est en panique, machin. Des fois, ils peuvent se suicider, les gens. Oui, mais ce n'est pas la méditation, c'est la façon de le faire. Encore une fois, c'est le sel ou le poivre qui est mauvais dans un repas. C'est si on en met trop. C'est comment on le fait, comment on dose les choses. Donc,
Du coup, tu viendrais presque à questionner l'idée d'un programme standard pour tout le monde. Il faudrait presque faire du sur-mesure à chaque fois.
C'est ça, et c'est ce que j'essaie un peu de formaliser, mais qui est très difficile, c'est qu'il y a un parcours. Et même, tu vois, je suis à l'hôpital et je travaille que sur le parcours du patient. C'est-à-dire qu'on essaie de faire de... L'hôpital, il est en train de mourir parce qu'on veut faire des standards et des trucs programmés. Et puis voilà, tu as telle maladie, même on va te la diagnostiquer par ordinateur, et puis on te fait tel truc, telle procédure, les protocoles, on adore les protocoles. Et puis voilà, puis ça colle pas. Je veux dire, chacun est unique. Il y a une personne, ben, il faudra passer du temps avec. Il y en a une autre, il faut lui faire une radio du genou. L'autre, il faut lui faire ça. Si tu ne l'examines pas cliniquement, tu ne peux pas savoir. Donc, il faut toucher la personne, il faut l'examiner. Maintenant, on n'examine plus, on fait des protocoles, des procédures. Et ben, la méditation, c'est pareil. Ce n'est pas un protocole, une procédure. C'est une pratique ancestrale qui a été simplifiée, vulgarisée et qui peut servir à plein de gens. Mais pas à tout le monde, et pas à n'importe quand, et pas à n'importe quel moment. Et en plus, la méditation, ça ne veut rien dire. C'est tellement de formes. Donc, encore une fois, c'est simplifié en disant la méditation. Alors, les gens, chacun projette ses trucs. Les gens qui sont complètement anti-secte, c'est une secte. Les gens qui sont anti-religion, c'est la religion. Les gens qui sont anti-new age, c'est du new age. Mais en fait, non. Ça peut être aussi, des fois, la méditation, ils disent, ah, mais en fait, c'est de la sophrologie, mais en fait, c'est de la relaxation. En fait, la méditation, ça ne veut rien dire. C'est des capacités attentionnelles qu'on essaie d'exercer, parfois, c'est un rapport au corps, c'est un retour au présent, donc c'est toute une richesse. Et il faut des gens, moi je pense, qui connaissent déjà un peu toute la richesse de ces pratiques, déjà personnellement et théoriquement, et qui vont accompagner des gens en connaissant tous les stades par lesquels peuvent passer les gens, c'est-à-dire connaître la psychopathologie, les déboires, les détresses, quoi faire quand quelqu'un veut se suicider. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, oui, c'est dangereux si on ne sait pas ce qu'on fait. Parce que quand on médite, eh ben, on se retrouve à nu, on écoute ses émotions, ses ressentis, et donc tout émerge. Et s'il n'y a personne pour recevoir, bah, c'est la cata. Et voilà. Donc, c'est tout ça, moi, je dirais. Donc, oui, mais effet indésirable, mais non, c'est moins dangereux que plein d'autres choses. Mais effet indésirable, si vous vous retrouvez au fin fond de la Creuse, dans une retraite, bloqué pendant une semaine, avec des gens qui sont dans le fake, faux self, et qui font les gourous, et puis vous êtes obligé d'avoir l'air gentil, parce que sinon, voilà, et puis vous faites, bah oui, effet indésirable, vous pétez un plomb, puis après, on va dire, vous êtes fou, on vous envoie en psychiatrie. Ouais, ça arrive, hein. Les gens, ils décompensent comme ça. Non, mais, tout ça, non, mais bien sûr que c'est. Ouais, mais c'est pas la méditation, encore une fois, c'est le rapport humain, c'est la connaissance du truc. C'est pas ça.
Après, là, ce que tu viens de dire, ça induit qu'il y ait une formation. Il faudrait faire un cursus. psychopathologique minimum, et puis derrière 10 ans de retraite pour vraiment maîtriser tout ça.
Bah, je sais pas, je pense que c'est des choses, des questions qu'on doit se poser. Encore une fois, on veut trop simplifier trop vite, mais partageons nos expériences et
Oui,
faisons
après, c'est sûr que
sincères.
c'est une des forces du programme MBSR quand il avait été fait, c'était quand même, en tout cas au début, la capacité de mettre en commun un certain nombre de compétences.
Ouais, dans la thérapie ACT, par exemple, c'est vraiment open source et chacun rajoute petit à petit tout ce qu'il expérimente. Et je trouve dans le monde de la méditation, je ne sais pas, on veut fermer les choses. Alors on a dit MBSR, bon ben c'est bon, on a tout dit. Mais non, mais attends, il y a le début du programme, il y a la fin du programme, il y a le avant, il y a le après, il y a qui, il y a quoi. Enfin, et cette réflexion et ces débats que j'avais voulu mener au tout début en 2006, hein, j'avais fait des groupes à mon cabinet avec tous les acteurs de la pleine conscience. J'ai dit, on va débattre de l'éthique, du lien avec la spiritualité, on marche sur des œufs. Oh non, non, chacun s'est dit, oh super, c'était en 2008 plutôt. Super, chacun voyait le truc. Génial, on va faire notre truc, on va être célèbre, riche, machin, et puis c'est génial. Et personne ne voulait débattre des difficultés, mais il faut débattre, il faut qu'on pose justement les problèmes qui se passent, notre expérience clinique, nos différents métiers. C'est pas pareil d'être psychiatre qui fait de la pleine conscience que d'être sophrologue qui fait de la pleine conscience, que d'être psychologue, que d'être coach, que d'être. C'est pas les mêmes populations, les mêmes endroits. Et on doit pouvoir aussi savoir ce qu'on fait avec qui. Et puis, et voilà, donc je crois que oui, on peut parler des effets indésirables, mais on peut pas les catégoriser. Hein, mais il faut qu'il puisse y avoir des retours, ouais, qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Donc, il faudrait des grands colloques, des semaines entières de conférences, de débats scientifiques, quelque part, une approche
Oui,
scientifique.
peut-être aussi une approche régulière d'échange et de partage. Là, je vois, il y a l'association des enseignants MBSR. Ils ont des modus de co-vision qui permet justement qu'il y ait des personnes qui puissent un peu partager les compétences. Il y a des choses qui commencent à émerger dans ce sens. Au travers de ce que tu dis aussi, et te connaissant un peu, je vois que quand tu parles de la méditation, en effet, la méditation de pleine conscience, mais toi tu vois beaucoup plus large. Ça a été on a eu pas mal d'échanges là-dessus ces dernières années. Comment tu vois les choses? Toi tu as une approche très très intégrative de différents types de méditation. Tu parles dans un ouvrage précédent d'une sagesse moderne où tu n'hésites pas à aller dans des approches contemplatives très impliquantes et que tu mets au service du soin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette volonté pour toi d'être vraiment intégrative et de ne pas te limiter justement aux approches de la pleine conscience,
Oui.
mais d'aller voir d'autres manières de faire et qui pourraient parler même quasiment de spiritualité, ce que tu n'hésites pas à faire?
Oui, alors oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde, moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement la psychothérapie et le parcours d'une personne. Comment elle peut se libérer de sa souffrance. Donc aujourd'hui, il y a quand même énormément d'outils qui existent et qui viennent surtout des États-Unis. Et qui, la méditation, c'est un tout petit outil, c'est une des parties, c'est pas grand-chose en fait. Mais c'est un préalable, c'est-à-dire que c'est un des préalables qui permet de commencer à regarder son propre esprit, en fait. Voilà, j'ai des problèmes dans ma vie, je répète des schémas, je répète des ruptures affectives, je répète des problèmes. Ah, bah c'est peut-être quelque chose en moi qui se répète et c'est peut-être ma vision du monde. Donc ça, c'est ce que permettaient déjà un peu les thérapies cognitives et comportementales. Mais après, ça a été plus loin avec la thérapie des schémas de Jeffrey Jung. Et petit à petit, quand on regarde pourquoi on souffre, les racines. Eh ben, il y a deux approches fondamentales qui me semblent essentielles à intégrer. C'est l'approche du psychotrauma. Donc ça, c'est aux États-Unis. Il y a des outils où en fait on ne peut guérir les traumatismes que par le corps et par un travail sur les sensations interoceptives et des mouvements du corps. Et là, la pleine conscience est un outil qui vient aider les gens à être de plus en plus attentifs et moins dans leur mental pour pouvoir faire ce travail de psychotrauma qui en général est individuel. Et la deuxième branche, donc Il y a deux voies fondamentales, c'est donc le psychotrauma et puis l'approche toute l'approche des émotions et de la connaissance de soi. Et donc c'est des approches thérapeutiques plus spirituelles où on a intégré donc les approches contemplatives où en fait dans la guérison, dans les racines de la souffrance, c'est par une démarche contemplative précise, minutieuse, inspirée par les traditions comme bouddhistes poussées, la philosophie bouddhiste, mais aussi d'autres soufis, etc., qu'on va avoir des outils pour travailler sur son propre esprit, sur les racines de la souffrance, pour revenir à un état de connecter son essence, son être, voilà, ne plus être dans un faux self, etc. Et là, effectivement, c'est pas la méditation de pleine conscience seule. C'est là où on va se nourrir de la connaissance sur la nature de l'esprit, sur la phénoménologie, etc. Et ça, typiquement, il y a des enseignements très scientifiques sur la phénoménologie de l'esprit et les traditions du Madhyamika, par exemple bouddhiste, et des scientifiques qui rejoignent tout ça et qui se rendent compte. Et donc aux États-Unis, encore une fois, ils sont très en avance, mais il y a vraiment des détails sur le fonctionnement du mode par défaut, par exemple, quand on est au repos, avec le fait que nos pensées, c'est de la narration autobiographique, et qu'en fait, on va déréifier de ça pour revenir à une appréhension de l'expérience beaucoup plus directe, etc. Donc ça, c'est très scientifique, mais c'est issu quand même des traditions bouddhistes contemplatives. Et donc ces
Qui
deux...
porte ce genre d'approche?
Ah ben...
Tu peux donner des références pour ceux qui nous écoutent?
Je pense à Richard Davidson. Je sais qu'Antoine Lutz aussi, ils ont fait des publications là-dessus. Après, là, tu me demandes de façon abrupte. Je sais, sur l'esprit clair, j'avais mis une référence d'un
D'accord.
autre neuroscientifique. Et c'est vraiment des détails sur la nature de l'esprit, la nature de la souffrance mentale. Et en plus, il corrèle ça avec des imageries IRM. Donc, on se rend compte que l'enseignement bouddhiste le plus pointu, le plus poussé sur la nature de la réalité, sur le mental, etc., est corrélé à des bases biologiques, scientifiques. Alors, c'est hallucinant. C'est ça, moi, qui me passionne. Et alors, donc, je vois mes patients, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bon, la souffrance mentale, la psychiatrie, c'est un stade, par exemple, zéro, de confusion mentale, et puis on va commencer un petit peu. Alors, les médicaments, ça peut faire descendre un petit peu. On peut commencer à dialoguer. On va commencer à regarder son propre esprit, faire un peu des thérapies cognitives, voir les pensées, les émotions, stade 2, etc. On va descendre en profondeur. On va commencer à faire un peu de méditation de pleine conscience, stade 3. On commence à être plus présent. Et puis, à un stade ultime, quand les gens sont vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus stabilisés et qu'ils ont accès à leur la nature d'esprit, ils peuvent aller beaucoup plus loin et travailler sur la nature des phénomènes, la vacuité, le sens de soi. Et ça rejoint Kant sur les postulats. Je veux dire, c'est vrai qu'on a plein de postulats, mais quand on regarde scientifiquement, la réalité, c'est pas ce qu'on se dit. La réalité, c'est beaucoup plus complexe, même scientifiquement, sur les phénomènes, etc. Et donc, moi, je me dis, voilà, je vois mon parcours. Moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Le psychotrauma, parce que ça, en France, on est en retard et que on ne peut pas guérir. Il y a plein de gens qui ont des problèmes psychiatriques, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas guéri de leur traumatisme d'enfance. Et il y a des outils très précis, EMDR et d'autres outils. Et puis, toute cette approche contemplative, scientifique de l'esprit qu'on commence à mettre en place et qui peut aider des gens à vraiment acquérir une autonomie émotionnelle, une autonomie de vie et beaucoup plus de joie. Et j'ai vu des gens, voilà, partir de très graves troubles psy vers une grande autonomie par rapport à leurs émotions, leurs états d'âme et pouvoir retrouver un peu de liberté dans leur vie. Donc, mais c'est un parcours, hein, ça, il faut être très précis.
Là, depuis un moment, on parle vraiment du parcours qui t'a amené à ça, mais après, il n'y a pas qu'un parcours, il y a aussi ton contact avec les patients. Là, depuis quelque temps, donc tu interviens directement dans le milieu hospitalier et tu as mis en place des ateliers de méditation pour les patients avec des bons résultats, tu m'avais dit en hôpital de jour. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ces
Alors,
groupes que tu as pu mettre en place et les résultats que tu as pu avoir observés?
oui, alors moi, j'aime pas trop parler de mes résultats parce que tant qu'ils sont pas objectivés par des statistiques sur le papier, je me dis ça peut toujours être subjectif. Évidemment, on retient que ce qui marche, on a tendance à. Voilà, donc je. Mais bon, je peux le dire quand même, mais
Avec des guillemets, quoi.
avec des guillemets et des réserves, j'ai pas encore fait, et je le ferai bientôt, j'espère, une évaluation avant-après, etc., des résultats. Parce que on n'a pas les moyens, il faudrait des gens qui nous aident. Moi, je n'arrive pas à mener tout. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a réouvert un centre d'accueil thérapeutique et qu'au sein de ce centre d'accueil, je fais un groupe sur la régulation des émotions, dont la méditation est un des outils, mais on fait aussi des TCC, on fait de l'affirmation de soi. Donc voilà, c'est surtout régulation des émotions. Je fais aussi, il y a une infirmière qui fait aussi un groupe pour régulation des émotions, méditation et yoga. Et puis j'ai commencé un groupe d'éducation thérapeutique pour les patients bipolaires. Et dans lequel on intègre plein de choses, dont la méditation de pleine conscience. Mais c'est pas, on ne fait pas que de la méditation. Et encore
D'accord,
une fois,
ça s'insère dans quelque chose de plus large, encore une
c'est plus
fois.
global. Bah oui, parce qu'en plus, je m'adapte en fonction des patients qui sont là, des groupes, des difficultés. Voilà, ce n'est pas juste on arrive, on médite. Je fais beaucoup aussi de pédagogie, d'explications sur les maladies, sur les troubles, sur la rumination, sur tout ça. Donc ça, c'est très important, toute cette pédagogie. Mais malgré tout, j'ai la chance qu'effectivement, à l'hôpital, ils aient accepté. Bon, c'était un peu une de mes conditions pour travailler à l'hôpital de Sarlat. Oui, mais il y avait quand même, il y a une ouverture où on me laisse amener progressivement ça. Et même, j'ai aussi commencé à introduire le neurofeedback au domicile des patients avec un outil qui est un petit outil pour faire de la méditation, mais qui en même temps mesure l'activité cérébrale. Et on fait ça, et c'est extraordinaire parce que l'infirmière, elle a des super retours sur le lien, l'alliance thérapeutique et que ça crée, etc. Et moi, dans mes groupes, je dirais que oui, les gens sont contents. Alors après, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des rechutes. Ça ne veut pas dire que les gens sont totalement guéris, mais c'est vrai que j'observe moins d'hospitalisation pour des patients qui étaient assez lourds. Et même quand il y a une hospitalisation, elle est demandée avec une meilleure adhésion quand même, une meilleure connaissance de soi et quelque chose de plus posé. Et moins, les patients partent moins dans tous les sens. Ils sont voilà, capables d'être plus lucides. Donc voilà, je vois quand même. Et puis il y en a pour qui c'est vraiment très, très thérapeutique et ça leur a changé la vie. Et si j'écoute les témoignages, il y en a, ils m'ont dit ça m'a carrément changé ma façon d'être avec les autres. On me trouve beaucoup plus apaisée, je retrouve la joie de vivre. Voilà, donc évidemment, je pourrais faire l'éloge, mais je reste toujours prudente.
Donc là, tu nous disais que tu étais sur l'écriture d'un livre. Tu peux nous donner quelques éléments sur ce dont ça va traiter?
Oui, alors j'espère le finir parce que je suis toujours en train de voir tout ce qui.
On te met la pression comme ça.
Ah ouais, non, mais tout ce qu'il y a encore à écrire, à travailler. Bon, je ne vais pas révéler tout le contenu, bien sûr, mais l'idée, c'est justement de peut-être continuer parce que mes deux premiers livres, c'était déjà ça. Hein, j'étais un peu le porte-parole de ce qui se passait. Et là, c'est d'aller plus loin sur tous les enjeux qui se passe autour de la question de la méditation et des thérapies de troisième vague et de comprendre qu'il s'agit d'un bouleversement même de la psychiatrie, mais d'un bouleversement même dans la société. Ça peut nous apporter des réponses pour guérir notre société des racines de la violence, notamment par le fait de, si chacun prend la responsabilité de son propre esprit et de ses propres émotions et de ses propres traumatismes et guérit en lui la violence, on imagine bien qu'il y aura beaucoup moins de choses qui vont se perpétuer. Et je pense aussi dans les milieux institutionnels ou les entreprises, on se rend compte de plus en plus que voilà, que c'est une institution qui fonctionnerait avec toutes les valeurs et la pratique qu'apporte la méditation dans l'acceptation, le non-jugement, l'écoute bienveillante, la compassion, etc. On voit bien que l'institution, les structures fonctionneraient de façon beaucoup plus intelligente en intelligence collective. Et c'est ça aussi que je questionne. Voilà. Je pose des questions, je dis, voilà, je parle des enjeux et j'espère qu'on comprenne que ce n'est pas juste voilà, une petite technique, mais qu'on est en train de revoir des paradigmes, même au niveau de l'écologie et tout ça. Et j'ai rencontré une personne qui a écrit le manifeste des crapauds fous avec Cédric Villani. Et finalement, ce qu'elle dit dans son manifeste, je m'en rends compte, c'est un mème, bah, que finalement, c'est ce que j'essaie de dire. Elle parle des crapauds fous, c'est ceux qui vont aller dans des chemins inexplorés, etc. Mais qui finalement, grâce à eux, on va découvrir des nouvelles choses. Et on les dit qu'ils sont fous, mais en fait, ils sont utiles. Le message de mon livre, c'est de dire, je pense que tout le monde a sa place et qu'il y a des outils de guérison et que voilà, il faut se donner la chance qu'on puisse utiliser tous les talents de chacun plutôt de stigmatiser les gens, les enfermer Voilà, et la méditation, elle vient aider à ça.
Bien. Merci beaucoup, Yasmine, pour ce témoignage. J'espère qu'on aura l'occasion de t'entendre d'autres fois pour parler un peu de ton expérience passionnante.
Merci.
À très bientôt. Ton dernier ouvrage s'appelait
À la recherche de son vrai soi, aux éditions MD Jacob. Méditer pour trouver sa véritable nature. C'était...
Merci beaucoup.
Merci à toi, Stéphane. Bon courage et merci pour tout ce que tu fais.
Au revoir.
Au revoir.